Bonsoir. Clôture jeudi dernier à Bruxelles d'un forum regroupant plus de 200 Congolais venus du monde entier. Les participants à cette rencontre organisée par le gouvernement congolais ont réfléchi ensemble sur la manière dont la diaspora peut participer abondamment au développement de la RDC. Comment analyser cette initiative du gouvernement? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce soir. Participe à l'émission professeur Eddy Tambwe. Il est professeur à l'Unikine à l'IFASI. Il était invité du gouvernement au forum de Bruxelles. Professeur Eddy Tambwe, bonsoir.
Bonsoir madame.
Daniel Mwanateba Kibondo, il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Il fait son entrée dans le studio, mais on va prendre Charles Kabuya qui est avocat à Paris et à Kinshasa. Il est aussi analyste politique et auteur de l'ouvrage intitulé « Congo terre d'enjeu, de la conquête coloniale à la quête d'un destin ». Monsieur Charles Kabuya, bonsoir.
Bonsoir, merci pour votre invitation. Alors, même si ce soir je vais dîner avec une longue cuillère.
Voilà, merci Charles Kabuya. Daniel Mwanateba Kibondo, bonsoir.
Bonsoir madame.
Je rappelle que vous êtes premier secrétaire national du Parti Social, membre de l'opposition en politique. Les auditeurs sont très nombreux à nous envoyer leurs réactions. C'est le cas de Placide Mutombo de Lubumbashi au Katanga. Je salue l'initiative prise par le gouvernement congolais en organisant ce forum dont l'objectif est de faire participer les Congolais de la diaspora au développement de la RDC. Mon souhait est de voir la recommandation de la création d'un ministère pour les Congolais de l'étranger se concrétiser. Gérard Kazingoufou de Beni au Nord Kivu, pour que la diaspora congolaise participe au développement de notre pays, il faudrait que nos dirigeants méritent d'abord sa confiance. Sinon, l'initiative de la rencontre de Bruxelles, initiée par le gouvernement, ne sera que peine perdue. Merci de nous suivre partout en RDC, sous la fréquence FM. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiokapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiokapi.net.
Peut-être un retour définitif à la normale entre la RDC et ses ressortissants vivant à l'étranger. Un forum regroupant plus de 200 Congolais venus du monde entier s'est clôturé jeudi dernier à Bruxelles. Son objectif était de trouver comment la RDC peut faire participer encore plus abondamment sa diaspora au développement du pays. Le ministre du Plan, Célestin Vunabandi, a participé à ces travaux. Des recommandations comme celle créant un ministère pour les Congolais de l'étranger ont été formulées. On écoute l'ambassadeur de la RDC en Belgique, Henri Mouvasakani, interrogé par Dona Madimba.
Il faut une structure au niveau politique, étatique, donc il faut d'autres structures. On a demandé aux Congolais de se fédérer pour que le gouvernement trouve des interlocuteurs, pour que l'on puisse escamoter la suspicion dont vous parliez au départ, sur quels critères on se base pour choisir des Congolais. S'il y avait des structures connues, reconnues et qui avaient pignon sur rue, il y avait de fortes chances de penser que finalement les choix allaient être tout à fait idoines et tout à fait insoupçonnables de favoritisme ou de copinage. Il y a d'autres structures qui ont été suggérées, l'essentiel étant de poser des passerelles, une plateforme qui permette que le dialogue soit permanent entre le Congo de l'intérieur et le Congo de l'extérieur. Vous vous souvenez, toute la guerre contre l'expression musicale, par exemple, congolaise à l'étranger, toutes ces choses vont être vaincues par l'intelligence que nous mettons en avant par rapport à l'expression du muscle.
Professeur Eddy Tambwe, je rappelle que vous êtes professeur à l'Unikine et à l'IFASIC. Vous étiez l'invité du gouvernement au forum de Bruxelles. Ce forum avait pour objectif de faire participer plus abondamment sa diaspora au développement du pays. À part cet objectif, quelles sont les autres raisons qui ont poussé le gouvernement à organiser ce forum?
Oui, les raisons sont évidentes et générales, comme vous le savez. Il faut partir de l'histoire récente de notre pays. Il faut partir on peut prendre comme curseur historique l'année 2003, avec le discours du chef de l'État qui manifestement a posé qu'il fallait absolument que la diaspora congolaise participe aux efforts de reconstruction nationale. Il faut partir également de certaines initiatives plus ou moins ratées, notamment l'institution d'un vice-ministère chargé des Congolais de l'étranger. Il faut partir évidemment des frictions des problèmes qui existent, des problèmes de communication, des problèmes politiques, disons-le franchement, entre notre diaspora, en tout cas une partie, une frange de la diaspora congolaise avec les autorités du pays. Friction qui exprime un certain malaise de certains de nos compatriotes à suivre, à rentrer dans les processus de reconstruction nationale aujourd'hui. Alors, le gouvernement a pris à bras-le-corps la question de la diaspora, puisque dans ces forums, même des Congolais dits combattants furent invités. Ils ont eu la parole pour dire pourquoi ils se comportaient comme ils se comportent, comme on le sait. Alors, donc, c'était un cadre, d'abord le palais d'Egmont, un cadre qui, à Bruxelles, qui permettait une franche discussion, un échange franc pour poser les balises pour les actions de demain. Donc, il était question de réfléchir, quid, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on en est avec nos frères, nos sœurs qui sont à l'étranger, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, et surtout, quel est l'échéancier des activités, des actions que nous allons poser pour que nous avancions ensemble, et tout cela pour le bénéfice de notre cher beau pays.
Alors le choix, comment le choix se fait, comment, professeur Edith Amboué? Parce que il y a certaines personnes qui disent que la diaspora qui a pris part à ce forum, c'est la diaspora du gouvernement. Du pouvoir, je dirais.
Oh, je crois que ce sera, c'est un raccourci. Vous savez, on est souvent dans le contexte de polémique dans notre pays. On parle un peu trop. L'heure est venue pour le travail. Tout choix qu'on aurait fait serait toujours contestable. Ici, le choix était très simple. Moi-même, j'ai travaillé à Bruxelles comme directeur du centre culturel congolais au sein de l'ambassade de notre pays ces trois dernières années. J'ai vécu à Paris, je rappelle que c'est moi qui ai installé les éditions L'Harmattan dans ce pays. L'édition L'Harmattan, c'est 600 auteurs publiés des Congolais à travers le monde. Donc, nous qui sommes de la diaspora, nous connaissons, nous savons qui fait quoi. Par exemple, Charles Kabuya qui est au bout, qui est à Paris en ce moment, à cette émission, je le connais. Donc, il y a quand même un réseau des Congolais qui sont plus ou moins agissants, qui sont plus ou moins dans des associations, qui sont connus. Donc, le gouvernement a voulu, par des critères tout à fait objectifs, c'est-à-dire des Congolais qui s'engagent pour le Congo, là où ils sont, en Argentine, au Brésil, aux États-Unis, au Canada, en France, et même en Afrique, le Maroc, tout ça, il a cherché à rassembler des gens qui sont déjà dans l'action en faveur du Congo, et des gens qui sont connus, par exemple, des gens comme Tshiembe, comme Elikia Mbokolo, qui est une figure bien connue du Congo. Donc, les critères étaient tout à fait objectifs.
Professeur, quel est l'état de la diaspora congolaise actuellement?
On peut dire que on parle très peu de l'histoire de la diaspora congolaise. Moi, je souhaiterais, d'ailleurs, dans ma communication, quand je parlais de la rupture de la communication qu'il y a entre notre diaspora et les autorités congolaises, je suis revenu longuement sur l'histoire même de la diaspora. Il faut rappeler que notre diaspora, la diaspora congolaise, elle est récente, elle est jeune, elle n'a pas 50 ans. On ne peut pas se comparer aux Maliens. D'abord, la singularité de l'espace dit RDC. Nous sommes nés comme État indépendant du Congo. Nous n'avions pas la nationalité belge, comme la plupart des colonies françaises, comme les Anglais et comme d'autres colonies. Nous étions des Congolais. Nous n'avons pas des traditions d'aller à l'extérieur. Nous nous sommes mis à aller à l'extérieur, à fuir le pays, en gros, pour faire vite, aux années 80, c'est-à-dire à la suite des affres de la dictature mobutiste, à la suite de la crise économique. Donc les Congolais, les chiffres sont là, les grands flux, c'est dans les années 80, et notre diaspora est dans une sorte de crise, crise pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore réussi à nous intégrer complètement dans les pays d'accueil.
Elle n'est pas encore structurée.
Elle n'est pas encore structurée, elle ne peut pas être structurée. Et puis les gens s'étonnent, je suis vraiment étonné parce que les gens ne connaissent pas l'histoire des diasporas. C'est toujours les pays qui structurent leur diaspora, que ce soit la diaspora italienne en Belgique, parce qu'elle est très nombreuse, que ce soit la diaspora marocaine en Belgique, elle est très nombreuse, les diasporas arabes, maghrébines en France, c'est le pays qui structure la diaspora. Et d'ailleurs aujourd'hui, la Banque mondiale met en place des programmes avec des gouvernements pour structurer leur diaspora, c'est-à-dire...
Ce qui n'est pas le cas avec la RDC.
Voilà, justement, nous sommes à la croisée des chemins. Le gouvernement depuis une dizaine d'années, des efforts ont été fournis. Tous les indicateurs classiques de l'économie le montrent. Il était donc temps, dans cette perspective, que la diaspora congolaise soit intégrée de manière franche dans les processus
Merci
actuels.
Merci, professeur Eddy Tambwe. Daniel Mwanateba, comment vous analysez cette initiative du gouvernement congolais de réunir les Congolais de la diaspora pour leur permettre de pouvoir participer au développement de la RDC?
Bien, comme d'habitude, je crois que une fois de plus, je me rends compte que le gouvernement a saisi le problème par le mauvais bout. Je crois qu'on s'attaque aujourd'hui aux effets au lieu de s'attaquer aux causes. Permettez-moi d'abord, madame, pour l'édification de nos auditeurs, de décrire, ou plutôt de dire ce qu'est la diaspora, selon la définition du dictionnaire. Un petit résumé que j'en ai fait, la diaspora a plusieurs sens, enfin... Elle a un seul sens, mais elle a plusieurs orientations. Le dictionnaire nous dit que par diaspora, on voyait au départ l'exode des Juifs hors de la Terre Sainte à travers le monde. C'est par là qu'est né le nom de la diaspora. Ensuite, le même dictionnaire nous dit aussi que la diaspora, en fait, c'est la dispersion d'une communauté ethnique ou d'un peuple à travers le monde. Une autre assertion dit que c'est la communauté d'un peuple migré hors de son pays d'origine. Donc, par rapport à cela, on comprend déjà que par diaspora, on voit départ des populations de leur pays d'origine vers une terre étrangère. L'initiative du gouvernement peut être bonne. On peut la qualifier de bonne. Sauf que, en ce qui me concerne, je préfère être réaliste, je préfère être responsable. La vraie question à laquelle on devait se poser, c'est celle de savoir pourquoi, au fil des années, la diaspora congolaise ne fait que prendre de l'ampleur à l'étranger. J'ai entendu le professeur Eddy Tambwe, excusez-moi, qui a parlé tout à l'heure de la difficulté de structure, et il a parlé aussi du fait que notre diaspora était très jeune et qu'on se rend compte que l'exode, ou disons les départs, ont commencé dans les années 80. Eh bien non, moi-même qui vous parle, j'ai fait partie de cette diaspora. Dans les années 77-78, je suis allé en Belgique pour faire mes études primaires déjà. D'accord, mais la question de savoir, on se rend compte que beaucoup de personnes que j'ai trouvées en Belgique, moi, y étaient depuis les années 60. Donc c'est-à-dire qu'il y avait il y a deux sortes de diaspora. Dans les années 60, 70 et 80, il y avait cette diaspora qui était constituée plus d'étudiants, c'est-à-dire de personnes dont les parents avaient les moyens de les envoyer étudier à l'étranger, avec pour seul leitmotiv que, dès la fin de leurs études, ils étaient censés revenir vite au pays pour y travailler. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, il y avait envoi des Congolais à l'étranger afin qu'ils acquièrent une certaine expertise qu'ils étaient censés venir mettre au service de leur pays. Ensuite, dans les années 80, et c'est là que je dis, il y avait la diaspora qui était constituée d'étudiants, mais dans les années 80 et 90, et avec une forte augmentation dans les années 90 et 2000, il y a ce qu'on appelle la diaspora qui est constituée plus d'immigrés pour des raisons économiques ou politiques. Et depuis Mobutu déjà, il y avait des membres de la diaspora qui se sont retrouvés là-bas pour des raisons politiques. Mais je crois que dans les années 90 et 2000 surtout, il y a eu amplification de ce mouvement. La question est de savoir maintenant, pourquoi tous ces gens quittent-ils leur pays?
Comment vous expliquez ça, Monsieur Mwanateba?
Mais c'est très facile à expliquer. Vous comprendrez que au fur et à mesure qu'il y a eu diminution du nombre d'étudiants envoyés en Europe ou d'élèves envoyés en Europe pour étudier, ça coïncidait avec la diminution du niveau de vie des Congolais au pays. Ça coïncidait avec la diminution des moyens qu'avaient les parents d'envoyer leurs enfants à l'étranger. Et cette diminution a créé aussi une augmentation du mouvement de ce que j'appelle les réfugiés économiques, pour la simple et bonne raison que c'est la dégradation du niveau de vie au niveau de la RDC qui pousse les gens à fuir. Parce que on parle de diaspora, mais aujourd'hui quand on voit le mouvement des Congolais vers l'étranger, c'est une fuite. C'est un exode. Les gens fuient le pays parce que les conditions de vie au pays deviennent intenables et insupportables. Et à ce moment-là, c'est là que je dis, on doit s'attaquer on doit essayer de comprendre les causes.
Mais aujourd'hui, le gouvernement appelle tous ces Congolais qui vivent à l'étranger revenir au pays pour qu'ensemble voir comment reconstruire le pays. Oui, je vais vous donner la parole, professeur.
Oui, mais c'est facile de, pour le gouvernement d'inviter ces gens à revenir, la diaspora à revenir pour reconstruire le pays. Mais avec, d'abord, la première question, c'est avec quelles qualifications? Parce que je vous ai parlé de réfugiés économiques ici. Beaucoup ont fui le pays pour des raisons des autres, ou une raison ou une autre, mais c'était surtout des raisons économiques, c'était des raisons sociales. La vie était impossible. À l'époque où certains étaient envoyés en Europe pour aller étudier, avec pour souci de vite revenir pour amener leur expertise au pays, aujourd'hui vous vous rendez compte que pour les nouveaux réfugiés, ceux qui vont en Europe aujourd'hui n'ont qu'une envie, non pas de revenir au pays, mais de faire en sorte d'attirer le maximum des membres de leur famille à l'étranger, parce que on a cette idée de paradis à l'étranger. Et c'est ça les causes auxquelles le gouvernement doit s'attaquer. Sur lesquels le gouvernement doit mettre le doigt. C'est-à-dire que le retour de la diaspora, la réinstallation de la diaspora passe d'abord par une réorganisation de l'État. Elle passe d'abord par une politique responsable en termes de création d'emplois. Et quand on dit création d'emplois, les trois quarts des Congolais qui constituent la diaspora actuellement sont des personnes qui n'ont pas étudié, qui n'ont pas fait d'études supérieures. Donc, ça posera un cas quand vous demandez à ces gens de venir. Qui pourrait accepter d'être ngounder, comme on dit, ou d'avoir un petit caillou en France, qui lui permet quand même, ou en Belgique, qui lui permet quand même d'avoir un minimum de décence, de vie décente? Ces gens-là, vous allez leur demander de revenir ici pour être manœuvre sur des chantiers et toucher 200-300 $. Ça ne sera pas possible. Il faut créer des emplois, il faut créer une augmentation du niveau de vie. Et il faut par-delà tout créer maintenant, remettre en place l'existence d'une classe moyenne.
Merci Daniel Moalantiba. Charles Kabouya, avocat à Paris à Kinshasa. Vous êtes aussi analyste politique et auteur de l'ouvrage intitulé « Congo, terre d'enjeu, de la conquête coloniale à la quête d'un destin ». Quelle est votre lecture à vous par rapport à la tenue de ce forum de Bruxelles?
Bon, personnellement, je n'ai pas participé à cette initiative. J'en ai eu un écho par la presse. Alors, ce que je peux dire, c'est que c'est une bonne initiative, parce que je pense qu'il faut renouer le dialogue, il faut établir des passerelles entre le pays et sa diaspora. Mais vos interlocuteurs ont brossé un tableau qui est assez exhaustif sur ce qui est la diaspora. D'abord, elle est diverse. Je dirais qu'il y a une sociologie au sein de la diaspora, parce que il y a une génération, une nouvelle génération de la diaspora, formée par les enfants qui sont nés des parents qui quittent le pays. Donc, il faut que le pays puisse envoyer un message fort pour que ces enfants puissent avoir un regard. Parce que il faut savoir, quand on est en Europe, on a une image du pays qui passe à travers un prisme européen ou américain, où on voit une Afrique qui n'est pas du tout attractive. Donc, je pense qu'on doit faire un effort par ce genre de rencontres pour essayer de faire comprendre à ceux qui sont à l'étranger que le pays a des atouts, que le pays a des indus. Mais c'est tout à fait difficile parce que, comme le disait M. Manateba tout à l'heure, il y a un problème de niveau de vie, parce que le niveau de vie en Europe, à l'extérieur en général, est beaucoup plus élevé. C'est difficile de dire à quelqu'un de quitter l'Europe pour venir faire un travail qui sera rémunéré au rabais, on va dire par rapport au niveau de vie en Europe. Donc c'est une question assez difficile. Je pense personnellement que dans l'état actuel des choses, il faut plutôt cibler une certaine diaspora qui peut venir entreprendre, investir. Parce que on a beaucoup de personnes, moi je suis avocat, je reçois des clients qui ont des possibilités économiques, qui ont une surface financière. Des fois je leur demande pourquoi ils ne vont pas investir au pays, mais ils disent que la situation il n'y a pas de visibilité sur le plan économique, c'est-à-dire qu'il y a un effort à faire. J'ai vu que le gouvernement a pris certaines initiatives pour que, au niveau de la création des entreprises, au niveau économique, au niveau des relations avec l'administration, ils puissent avancer, mais il faut aller dans ce sens-là, approfondir, parce que les gens n'ont pas envie de venir dans un pays où leur investissement ne sera pas sécurisé. Donc, il y a un effort multiforme à faire. Il faut dialoguer, il faut qu'il y ait des doléances, cette cible prioritaire pour moi, qui est cette diaspora qui a quelque chose à apporter directement, immédiatement, par son pouvoir d'achat, par son expertise, il faut la privilégier.
Alors, Charles Kabuya, on a suivi le prof, hein. Je dirais qu'on compare par exemple la diaspora congolaise à la diaspora ouest africaine. On a l'impression que la diaspora congolaise est vraiment dispersée. Qu'est-ce qui explique cela?
Bon, je disais qu'il y a une sociologie, hein, dans la diaspora. Parce que, bon, comme on expliquait tout à l'heure, il y a des gens qui étaient venus pour faire des études. Ensuite, il y a une autre vague. Des gens qui sont venus après pour des raisons tout à fait économiques. Et puis, il y a une seconde génération, des enfants qui sont nés ici. Et puis, il faut savoir que la diaspora est constituée aussi en grande partie des Kinois. La plupart des gens qui sont à l'extérieur sont des gens de Kinshasa. Donc, ils ont une sociologie tout à fait particulière. Donc, ça fait que il y a aujourd'hui dans la diaspora un problème de structure. Les gens ne se mélangent pas, parce qu'il y a beaucoup de différences sont liés à la sociologie, comme je disais tout à l'heure. Il y a incompréhension. Il y a des mouvements aujourd'hui en Europe qu'on appelle combattants, ainsi de suite. Et ces mouvements sont menés par des jeunes qui ont la volonté d'exprimer quelque chose, mais qui parfois ne sont pas canalisés. Donc les intellectuels sont absents de ces mouvements. C'est que je déplore vivement, parce que d'une manière générale, les élites sont appelées à agir de façon à ce qu'on puisse transformer notre pays. Mais ce qui se passe dans la diaspora, c'est que les intellectuels sont tout à fait absents de tous ces mouvements. Il faut regarder tous ces jeunes combattants et tout. Ils ont du mal à exprimer, à s'exprimer. Ça s'exprime par la violence, ça s'exprime par des actes qui parfois dépassent l'entendement et qui donnent une très mauvaise image du pays. Donc il faut que les intellectuels qui sont dans la diaspora s'impliquent beaucoup plus plutôt que de rester en retrait. Alors, il y a des gens dans la diaspora qui ne sont pas prêts pour s'engager véritablement dans une action de retour vers le pays, mais quand même, qui font du bruit. Tout cela, ça fait que, bon, on ne comprend rien par rapport à la diaspora. Vous allez demander aux gens, est-ce que vous êtes prêts à venir au Congo si demain les conditions sont là? Ben, ils hésitent. Mais ils participent quand même de loin, et ça fait qu'il y a une cacophonie. Je pense qu'il faut cibler les populations, comme je disais. Il y a une diaspora qui a les moyens. Et souvent, ces gens-là ne parlent pas beaucoup.
Merci.
Des gens qui ont eu une expertise dans leur domaine.
Merci Charles Kabuya. Merci Charles Kabuya, professeur Edine Tamboué. Avant de répondre aux préoccupations des autres interlocuteurs, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Kinshasa.
Maître Francis de José Ponzé Mbalokombe depuis Kinshasa. C'est une initiative fort louable, mais quels sont ses tenants et ses aboutissants aussi longtemps que le climat de confiance entre acteurs politiques et la diaspora n'a pas encore été rétabli? C'est un moyen peu rassembleur car ce n'est pas ce que la diaspora attend. C'est une manière de mettre la charrue devant le bœuf, d'où il serait de bon aloi d'attendre le gouvernement d'union nationale qui aura pour mission de matérialiser les recommandations des concertateurs en général et ceux de la diaspora en particulier. Que le gouvernement soit réaliste en lieu et place d'être idéaliste aveugle.
Comment vous répondez à cet auditeur, professeur Edith Amoué?
Oui, je réponds à cet auditeur en disant que la politique, c'est l'art du possible. Le gouvernement n'a pas commencé cette réflexion aujourd'hui. C'est une longue réflexion, comme je le disais au début de l'émission, qu'on peut dater. On peut prendre comme curseur historique 2003. Il y a toujours cette préoccupation d'intégrer la diaspora. Je réponds en passant à Monsieur Monateba en disant que, évidemment, la diaspora congolaise n'a pas commencé dans les années 80. Vous ne me ferez pas l'insulte de me faire affirmer. Mais je suis en train de parler sociologiquement. Les grands flux, c'est dans ces années-là. Les grands flux. Moi-même, j'étais en Europe dans les années 60. Donc, la plupart d'entre eux. Donc, ça n'a pas commencé là, dans les années 50. Mais par rapport, comparativement à beaucoup de pays, à certains pays, nous n'avons pas une tradition de sortir de notre pays. Alors donc, c'est là et réglé. Pour revenir à la question de maître
Francis
Boudjemba, je dis ceci. D'ailleurs, coïncidence historique, quand le chef de l'État rendait compte devant le Congrès, nous étions en pleine table ronde. C'est-à-dire, c'est un événement voulu depuis longtemps. Le gouvernement n'a pas voulu supprimer cet événement qui faisait venir 200 personnes venues dans 27 pays du monde entier. Donc on ne pouvait plus reculer pour dire que la réflexion sur la structuration de la diaspora, elle est ancienne au sein du gouvernement. Il faut absolument que les Congolais...
Elle est ancienne, professeur, mais comment on n'arrive pas à rétablir cette confiance entre la diaspora et les acteurs politiques?
Mais avant de rétablir, il faut réfléchir en politique.
Ça fait longtemps que vous réfléchissez, que le gouvernement réfléchit. Vous venez de le dire. Ça fait longtemps que cette réflexion existe au niveau du gouvernement.
Ça ne fait pas trop longtemps qu'on réfléchit. Il ne faut pas introduire une idée pernicieuse là-dessus. Ça fait un moment que nous sommes, je ne suis pas du gouvernement, que le gouvernement est en train de travailler sur ces sujets. C'est un sujet difficile. Si c'était facile, on l'aurait su. C'est un sujet difficile parce qu'il s'agit des Congolais qui sont dispersés sur le plan international, sur le map monde. Il faut trouver un langage commun. Il faut laisser aussi, et c'est ça que le gouvernement a voulu faire, il faut laisser aux Congolais de réfléchir eux-mêmes et de proposer des modèles d'organisation de leur propre structure. Et d'ailleurs, j'espère que j'aurai le temps d'esquisser quelques résolutions de cette table ronde, puisqu'il est question de mettre en place un comité technique international qui va intégrer tout
alors,
le monde.
Alors les grandes résolutions.
Les grandes résolutions, c'est d'abord l'idée de poursuivre l'idée de la structuration de la diaspora. Et cette idée n'essaiera pas, et ces modèles ne laissera pas proposer de manière arbitraire. Nous allons, vous voyez le lapsus, le gouvernement voudrait laisser des comités. Il y a un comité qui s'est formé à l'issue de cette table ronde afin de voir dans quelle mesure on peut proposer les différents modèles d'organisation. Ici sur le pays, évidemment, le calendrier il est politique. Nous attendons un nouveau gouvernement. Nous ne savons pas vers quel type d'organisation on aura affaire ici au pays. Ça peut être un ministère, ça peut être un vice-ministère, mais ça peut aussi être une agence pour des raisons d'efficacité. Ça peut être une maison de Congolais de l'étranger qu'on peut renforcer parce qu'elle existe déjà.
Qu'est-ce qui explique, professeur, excusez-moi, l'échec du ministère des Congolais de l'étranger qui existait?
Je ne sais pas, mais d'après mes propres enquêtes, je pense que justement, il y avait une sorte de précipitation à mettre en place cette structure-là. Justement, c'est ça l'importance de la réflexion en politique. Je pense que l'institution d'un ministère, d'un vice-ministère de Congolais étrangers, sous cette forme-là, a été une décision un peu rapide. Beaucoup de nous, de la diaspora, beaucoup ont contesté le choix porté sur la personne qui dirigeait cette institution. Et ensuite, il y a aussi, c'était la première fois, c'était une première expérience. On peut se tromper lors d'une première expérience. Mais maintenant, on fait justement la synthèse des expériences des autres pays. On écoute les gens de la diaspora. On veut échanger. Donc, on ne peut... Ça sera une avancée. Merci. Par rapport à 2016, à 2006, forcément.
Merci, professeur Eddy Tambwe. Monsieur Daniel Mwananteba, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu au sud Kivu.
J'attends Ikilima de Bukavu au sud Kivu. Cette initiative est salutaire car partout ailleurs, la diaspora a toujours apporté un plus dans le développement du pays. Néanmoins, comme c'est organisé par le gouvernement, ce forum court le risque d'être politisé et servir plutôt les intérêts de la majorité au pouvoir. D'où, pour un peu de crédibilité, la tenue de ce forum devrait être confiée à une organisation de la société civile.
Qu'est-ce que vous en pensez?
Ben écoutez, je respecte son point de vue, c'est le sien, mais je relève quand même quelques incohérences dans ce qu'a dit le professeur Eddy Tambwe tout à l'heure, permettez-moi d'y revenir. On parle de la remise en place d'un gouvernement, d'un ministère des Congolais de l'étranger, en disant que l'expérience du passé nous permettra cette fois-ci de faire mieux. Mais le même professeur Edi Tambwe nous informe que le vrai problème qui existe entre la diaspora et c'est un problème de confiance entre la diaspora et les personnes, leur interface et les autorités politiques. Mais moi, je crois qu'aujourd'hui, avant de penser à la mise en place d'un ministère de Congolais de l'étranger, qu'on nous explique un peu comment va-t-on remettre cette confiance. C'est pas par la mise en place d'un ministère que la confiance revient comme par magie. La vraie question, et c'est là que je dis chaque fois, qu'on a tendance à se lancer tête basse dans des grands théorèmes, dans des grands principes. On essaie de rédiger des grands principes, mais on ne prend pas le temps de s'arrêter à la nature humaine. On ne prend pas le temps de faire attention à la nature humaine, de se poser les vraies questions. La vraie question aujourd'hui qu'on devait se poser par rapport aux relations entre la diaspora et les dirigeants, c'est de savoir qu'est-ce qui a mis fin à cette confiance ? Parce qu'il fut un temps où cette confiance existait. La question de savoir aujourd'hui, pourquoi cette confiance n'existe-t-elle plus ? Et la réponse est très simple à trouver. C'est une question de gouvernance. C'est une question d'insatisfaction d'une certaine frange des Congolais de l'étranger par rapport à la manière dont le pays est géré. Et le meilleur moyen de renouer cette confiance, eh bien, ce serait de prouver à cette diaspora qu'effectivement le gouvernement, les autorités, le pouvoir politique en place en RDC est vraiment décidé à changer de méthode.
Mais l'organisation de ce forum, est-ce que ce n'est pas un premier pas, Daniel Monantiba?
Oui, mais écoutez, il y a un problème de confiance entre la diaspora et les autorités politiques. Ok, l'organisation de ce forum, c'est une bonne initiative, mais pour quel résultat? Qui cette diaspora avait-elle en face d'elle? Ensuite, on se pose la question, parce que c'est encore des autorités. Si cette confiance n'existe pas, déjà, comment vous voulez-vous dialoguer si vous n'êtes pas capable de vous faire confiance un minimum? Deuxièmement, vous parlez de 200 participants, mais il semblerait que la diaspora compte à peu près 7 millions de Congolais à l'étranger. Plus ou moins, selon les chiffres dont j'ai entendu parler. Que ce soit plus ou moins, en tout cas on nage dans les 5, 6, 7, ça doit être dans cette vague-là, dans cette fourche-là. Mais la première question était de savoir, lorsque vous voulez faire un forum de ce cadre-là, vous y invitez 200 participants. On a même dit qu'il y avait certains combattants. Oui, mais la vraie question qu'on doit se poser, c'est de savoir quelle est vraiment la teneur de la représentativité de ces 200 personnes qui étaient envoyées, qui parlaient au nom de qui? Mais pour parler au nom des autres, il faut être au courant des problèmes des autres. Il faut être au courant de la vie des autres. Est-ce que c'était le cas? Je ne sais pas. Je vais chuter pour ne pas vous prendre trop de temps par rapport à une question qu'on a dit, que M. Charles Kabuya a abordé tout à l'heure en disant qu'il faut cibler par rapport à la diaspora qui pourrait être, je ne dirais pas le plus utile, mais qui pourrait être le plus utile dans des investissements ou des choses de ce genre-là, selon ma compréhension. Mais moi, ce que je dis, c'est que la diaspora aujourd'hui est extrêmement utile. Il y a un flux de plus d'un milliard de dollars annuellement qui circule entre l'extérieur et la République démocratique du Congo, à travers les différentes agences dont je tairai le nom, les agences de transfert et tout ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même un ouvrier, même un Congolais qui balaie les rues de Paris ou de Bruxelles est utile aujourd'hui parce qu'il fait, il nourrit sa famille. Et aujourd'hui, la plus grande utilité de cette diaspora a été qu'elle a permis quand même d'éviter une explosion au niveau social, dans la mesure où la diaspora aujourd'hui joue le rôle de la classe moyenne d'hier. C'est cette diaspora qui nourrit les familles à la cité, les familles les plus démunies qui ont parfois vendu une maison ou des biens pour faire partir un des leurs afin qu'ils puissent subvenir à ses besoins. Et c'est de ça qu'on vit. Je crois qu'aujourd'hui, il faut avoir énormément de respect pour cette diaspora, aussi bien composée par les intellectuels que les autres, qu'on appelle combattants et tout, qui ont vraiment des revendications, qui ont un message à faire passer, même si parfois ils le font mal passer. La question, je dis, c'est de savoir comment parvenir à les convaincre qu'il y a vraiment une volonté de changer les choses. Et pas seulement qu'il y a une volonté, mais par des actes. Par où commençons-nous à changer les choses afin de regagner la confiance de nos frères de l'étranger? C'est ça la vraie question.
Merci Daniel Mwalanteba. Les auditeurs sont nombreux à nous écrire. Il y a chef de travaux Jean-Bernard Mibeko depuis Mbandaka qui dit ceci. C'est une bonne chose, mais que ce ministère des Congolais de l'étranger soit plus technique que politique, que ce ministère crée des conditions qui incitent les Congolais de la diaspora à faire autant pour leur pays comme font les autres ressortissants d'autres pays. Charles Kabuya, comment arriver à canaliser l'énergie des combattants pour la mettre au service du pays?
Oui, je voudrais préciser ma pensée, parce que tout à l'heure, M. Malin Teba m'avait repris. En fait, je n'ai pas dit qu'il faut négliger les autres membres de la diaspora. Tout le monde est conscient du rôle économique et social que la diaspora joue à travers les flux financiers qui viennent dans notre pays pour assister les familles. Donc, tous les membres de la diaspora sont utiles. Ce que je voulais dire, c'est que sur le plan des investissements, je pense qu'il faut accorder une place à nos compatriotes qui ont la possibilité de venir exprimer leur savoir-faire et venir investir dans notre pays. Donc, en ce qui concerne donc les combattants et les autres mouvements qui agitent la diaspora, ce que je pourrais dire, c'est que c'est une question de politisation. Il y a une politisation, je dirais même à outrance, au sein de la diaspora, et la diaspora quelque part le reflet de ce qui se passe au pays. Qu'est-ce qu'on voit au pays? On voit que il y a une opposition institutionnelle, il y a une majorité, et il y a également une opposition qui est hors des institutions. Donc cette situation se reflète au sein de la diaspora. Donc il y a des mouvements qui poussent les revendications à l'extrême et qui se veulent des mouvements de rupture. D'ailleurs, dans une de mes analyses, j'avais parlé plutôt des mouvements qui ne sont pas des mouvements de contestation, mais des mouvements de dissidence, en quelque sorte. Donc, je pense qu'il faut faire un travail au sein de la diaspora. C'est pour ça que je disais qu'il fallait que les intellectuels s'impliquent aussi, pour pouvoir un peu comprendre ce qui se passe au pays. Parce que cette politisation à outrance ne produit rien. Et c'est le rôle de tout le monde. Autant les politiciens qui sont à Kinshasa, qui parfois soufflent sur les braises, ça il faut le dire. Ils soufflent sur les braises, ça fait que il y a des tensions extrêmes, même au sein de la diaspora, il est difficile d'exprimer son opinion. Alors qu'au Congo, il y a 50 chaînes de télévision, les gens viennent parler, mais en Europe, il est difficile d'exprimer son opinion, ce qui est tout à fait paradoxal. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire ici, mais pour cela, il faut que tout le monde s'implique.
Alors on va prendre pour vous, Charles Kabuya, cette réaction qui nous vient de Goma, au Nord Kivu.
Jerry Massagiro, depuis Goma, je pense que la diaspora congolaise contribuerait au développement de la RDC si elle pourrait parler même langage. Elle jouerait à la pacification dans le sens qu'elle poserait des actions visant à décourager les ennemis du Congo.
Même réaction, Charles Kabuya.
C'est en droite ligne de ce que je disais, donc parler un même langage.
Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible aujourd'hui que la diaspora, est-ce que c'est possible aujourd'hui, Charles Kabuya, que la diaspora congolaise puisse parler le même langage?
C'est vraiment difficile. Moi, quand j'ai entendu parler de cette initiative, je me disais, bon, tout à l'heure, M. Boyanté va parler de la représentativité. Mais comment organiser la représentativité? Parce que vous avez une atomisation des mouvements politiques. Comme c'est le cas aujourd'hui. Il y a combien de groupes de combattants? Qui va accepter que tel le représente et pas l'autre? Dans pratiquement tous les pays, il y a des tas de mouvements qui ne s'entendent plus, qui se tirent dessus à boulet rouge. Donc c'est vraiment un problème, on a un problème très grave ici dans la diaspora. Donc j'ai même l'impression que là, sur le plan même démocratique, la diaspora est en régression par rapport au pays, ce qui est grave. Parce qu'on ne peut même pas s'exprimer. Donc, je pense qu'il faut prendre le problème à bras-le-corps et il faut que des hommes politiques qui sont au pays s'impliquent aussi, qu'ils arrêtent de souffler sur les braises de façon à ce que les Congolais se retrouvent, parce qu'il n'y a plus d'amour entre nous. C'est un constat amer, mais il faut le faire, c'est comme ça.
Merci Charles Kabuya. Il me reste moins de 5 minutes pour mettre fin à cette émission. Je vais vous demander d'être bref dans vos réactions. Professeur Edith Tamboué.
Oui, j'ai suivi avec intérêt les propos de mes frères. Mais arrêtons cette image sombre du Congo. Nous sommes sortis du long tunnel dans lequel la situation de la guerre de l'Est nous a plongés. Aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, si ça n'allait pas mieux qu'il y a 20 ans, qu'il y a 15 ans, on le saurait. Moi, je m'intéresse aux faits. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de Congolais qui reviennent au pays. Ça, c'est le meilleur indicateur dans les rapports avec le pays.
Ils reviennent, mais ils repartent déçus parce qu'ils ne sont pas facilités, surtout pour ceux qui viennent pour investir.
Regardez les activités économiques moyennes de ce pays. Le flat, le transport, les envois d'argent, même sur place. Il y a un mouvement général. Il faut vraiment être un gros aveugle pour ne pas le voir. Il y a de plus en plus de Congolais qui ont envie de revenir et qui reviennent réellement. Donc le gouvernement a raison d'étendre la main fraternellement à cette catégorie des Congolais qui vivent à l'extérieur pour que ces gens participent activement au développement du pays. Et ça a déjà commencé. Il y a de facilités. La diaspora a besoin de facilités sur le plan économique, de facilités sur le plan juridique. Je pense notamment à la question de l'irrévocabilité des nationalités d'origine congolaise. Il y a des choses que la diaspora voudrait espérer de son pays. Et la diaspora ne dort pas, contrairement au tableau complètement sombre, brossé par Mouana Teba. Il y a des faits qui montrent que le pays va de l'avant.
En conclusion,
il y a des faits
professeur.
Qui montrent que la diaspora comprend que le pays est dans une nouvelle ère de son histoire et elle a envie de participer activement.
Et vous pensez que cette confiance va revenir entre la diaspora et les autorités politiques
Mais vous voulez une confiance totale, globale, elle n'existait pas, même les autres diasporas connaissent certains problèmes que nous connaissons. Il ne faut pas être dans un monde angélique. La politique, c'est le possible. Et le possible aujourd'hui, c'est ça que nous avons fait à Bruxelles, c'est-à-dire de réunir tant soit peu les gens les plus représentatifs du pays pour qu'ensemble nous avancions.
Merci professeur Edith Tambo, je considère celle-ci comme votre conclusion. Monsieur Daniel Kumwanantéba, je vais vous demander aussi de conclure.
Bien, je vais conclure en persistant et en signant. Je dis que la diaspora, pour renouer la confiance entre la diaspora et la classe dirigeante, il faut se poser la question de savoir qu'est-ce qui a mis à mal cette confiance? Et ce qui a mis à mal cette confiance, c'est purement et simplement la malgouvernance dans certaines proportions et un manque flagrant de visibilité en termes de gestion de la République. En ce qui me concerne, je suis convaincu que cette diaspora, dynamique certes, est importante aussi pour notre pays. Je suis convaincu qu'elle a besoin aussi parfois de revenir pour s'imbriquer dans le modèle social et dans la vie de tous les jours congolaise. Mais je suis aussi convaincu que les vrais atouts dont devrait se servir le gouvernement passeraient par une gestion drastique d'abord de la République et ensuite par la mise en place de mesures d'encadrement pour protéger quand même nos frères de l'étranger qui ont eu pour habitude, et que ce soit les intellectuels ou les autres, mais ils ont eu pour habitude d'évoluer dans un état quand même organisé juridiquement, et je crois que la première des choses qu'on devrait faire, c'est leur accorder la même protection juridique, ne fût-ce qu'en termes de vie courante et en termes d'investissement.
Alors le prof a évoqué le problème de nationalité, vous allez répondre brièvement, mm-hmm. peut-être en un mot, faut-il réfléchir aujourd'hui sur l'extension de la nationalité congolaise?
Je crois que l'irrévocabilité de la nationalité congolaise, comme l'a dit le prof, est une très bonne chose, parce que là au moins c'est des choses qu'on peut contrôler, on sait que tel était congolais, il est devenu français et tout ça, mais je crois que la démarche contraire, on doit y faire très 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 attention, elle serait extrêmement dangereuse, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se permettre, au vu de tout ce que nous venons de subir à l'Est, de donner la nationalité congolaise à n'importe qui, n'importe comment.
Merci Daniel. Merci professeur, merci Daniel Molanteva. Charles Kabuya, un mot en guise de conclusion.
En tout cas, j'ai été content de participer à votre émission. Ce que je veux dire, c'est que la diaspora est un atout. Aujourd'hui, on parle de plusieurs millions, on parle de 6 à 7 millions de Congolais qui sont à l'étranger, avec leur progéniture. Et donc, c'est un atout, c'est une force. Donc, il faudra établir des passerelles. Il faudra beaucoup d'action. Je suis convaincu qu'on pourra y arriver, mais ça va être une œuvre de longue haleine et avec la bonne volonté de tous.
Voilà, on a perdu Charles Kabouya. C'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais qui m'a aidé à préparer et réaliser cette émission. Alain Rung, Samuel Kachak, sous la supervision de Martin Sebujangwe. Dieudonné Nyangasa a été à la mise en onde de micro Kélin Kouté. Retrouvez cette émission sur notre site internet www.radiocapi.net. Bonsoir chez vous et bon suite de programme sous la fréquence de la paix.